France Culture.
Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Mi-humain, mi-bête, la fantastique histoire des terranthropes ou des terrianthropes, histoire de mettre les points sur les i, une combinaison entre l'humain et l'animal, sachant que les humains sont des animaux, alors entre l'humain et la bête plutôt. Nous y croisons des divinités de l'Égypte antique, mais aussi celles qui figurent dans la mythologie grecque, avec les centaures par exemple. Nous les retrouvons sur les parois des grottes, sur les temples des Égyptiens. Oui, quelle définition donner à ce qu'est l'humain ?
Et maintenant, je vais te donner un spectacle.
Et on a un guide vers le monde de l'au-delà, à tête de loup ou de chien.
Et leurs petites amies, les centaurettes.
Avance !
Le loup-garou était un loup, ou un sorcier, on ne sait pas lequel des deux, qui avait la faculté de se changer soit en homme, soit en loup.
Le cours de l'histoire.
Comment l'homme, animal, les quatre pieds du sphinx, peut devenir un humain et par l'œuvre du soleil atteindre la divinité. C'est pour ça qu'il regardait le soleil levant.
L'animal était quelque chose qui a donné primitivement aux hommes le sens du divin.
Je reste là foudroyé et j'oublie.
Bah oui, j'oublie, et puis on les a oubliés pendant bien longtemps, ces terranthropes. Bonjour Philippe Grosot.
Bonjour Clavie Mauduit.
Vous êtes l'auteur de Mi-homme, mi-bête, vous êtes professeur de philosophie à l'université de Poitiers. Hélène Bouillon, bonjour.
Bonjour.
Conservatrice en chef et adjointe à la direction du département des antiquités égyptiennes au musée du Louvre à Paris. Vous avez notamment été la commissaire de l'exposition Animaux Fantastiques, c'était au Louvre Lens, et il y a le catalogue qui existe toujours parce qu'une exposition continue à vivre longtemps après qu'elle ait eu lieu. Qu'est-ce qu'un terranthrope ? Alors moi je dis terranthrope, vous allez dire terrianthrope, Philippe Grosot ?
Je vais dire terranthrope.
Terranthrope, parce qu'il y a le i parfois qui se glisse, c'est lié à l'étymologie, c'est ça ?
Oui, voilà, on peut prendre le mot à partir ou du nominatif ou du génitif du grec, et c'est ce qui explique ou théron ou thérion.
D'accord, donc les terranthropes, en tout cas la définition est la même, quel que soit
oui,
le
voilà,
qui se place
le
ou
pas. Le i ne change rien à l'affaire.
Qu'est-ce qu'un terranthrope ?
Alors étymologiquement, terron et anthropos, donc c'est un mixte entre un homme, anthropos, et terron, donc la bête. Dans ce cas-là, probablement d'assez sauvage, puisque comme les Grecs disposaient de plusieurs termes pour dire l'animal, c'est très important de ne pas traduire ce terron par animal, parce que si on disait évidemment un homme mi-homme, mi-animal, on dirait peut-être un homme tout simplement, parce que tout simplement notre animalité n'est pas biologique, n'est pas en cause. Donc c'est plutôt la singularité du mélange entre la bête dans ce cas-là d'un peu sauvage, ou voire de très sauvage, parfois agressive, mais pas toujours, en fait, et puis l'humanité. Donc c'est ce mixte très étrange d'hybridation, en fait, qui fait qu'on est littéralement mi-homme, mi-bête.
Avec quelque chose de physique, cela se voit, ce n'est pas l'idée que l'animalité est à l'intérieur de nous, c'est qu'il y a une représentation ici corporelle.
Exactement, c'est pour ça que ce n'est pas un zoon, mais que c'est un terron. C'est qu'il y a une marque, alors ça peut être une tête de lion, ça peut être une tête de bélier, ça peut être une tête d'ibis, et beaucoup d'autres en fait.
Hélène Bouillon, spécialiste là aussi de ce monde de l'Égypte antique, vous en avez des tas et des tas que nous connaissons. Nous avons les images en tête tout de suite dès que nous évoquons les dieux de l'Égypte ancienne.
Oui, il faut préciser quand même que les dieux ne commencent à être représentés avec ce caractère hybride que finalement à partir de l'Ancien Empire. Parce que les premières périodes qu'on appelle proto-historiques et les toutes premières dynasties ne représentent les dieux que sous leur forme véritablement animale. Et dans ces cas-là, les animaux représentent l'essence, la fonction en fait de ces divinités. Donc chez les Égyptiens, on va représenter les dieux astraux, par exemple, comme des oiseaux, parce que l'oiseau représente ce qui est en haut. D'ailleurs, le dieu astral par excellence, c'est le dieu Horus, et Her, ça veut dire celui qui est au-dessus. Donc, l'oiseau et le faucon, en l'occurrence. Quand on représente, par exemple, des divinités qui représentent la fécondité féminine, la fécondité femelle, ça va être une vache. Et c'est à partir de l'Ancien Empire qu'on a commencé à donner à ces dieux un caractère anthropomorphe, parce que pour les représenter en pleine action, par exemple embrassant le roi, en l'accueillant par exemple dans leur monde, ou en faisant des dons, et ben c'est plus facile de représenter avec un corps humain.
Oui, parce qu'il y a aussi ce côté pratique-là, mais ce qui est fascinant en étudiant, c'est... Je ne sais pas comment le dire, ces créatures mi-hommes, mi-bêtes, mais créatures, ça ne va pas aussi. Ces entités, ça ne va pas aussi. C'est pour ça qu'on dit théranthrope, parce qu'il fallait bien un mot ici. C'est que nous avons une évolution, et cela nous plonge le plus loin possible dans le temps. Mi-hommes, mi-bêtes, Philippe Grosso, c'est l'ouvrage que vous publiez aux éditions du Cerf. Ben voilà, la partie homme, c'est vous, la partie animal, c'est l'éditeur. Les traces les plus anciennes, et c'est là où d'ailleurs on est tout de suite perturbé, correspondent aux traces les plus anciennes de création figurative. Et les théranthropes apparaissent dès les origines de la création.
Alors, on peut quasiment dire ça, effectivement, parce que dans l'enquête que j'ai menée, une des surprises, c'était de découvrir que, ça c'est lié aux découvertes très très récentes en fait, hein, que la plus ancienne figuration d'un théranthrope, on la trouve maintenant en Indonésie, sur l'île de Sulawesi, où c'est vraiment le lieu où actuellement les études préhistoriques explosent, les découvertes se multiplient, et les datations sont stupéfiantes. On a une datation à la plus récente possible, à 50 200 ans avant le présent. Donc c'est vraiment tout à fait considérable. Alors, ça va très vite les découvertes en paléanthropologie et en préhistoire, y compris en art préhistorique, parce que celui qui a découvert un des co-découvreurs, des co-inventeurs de ce théranthrope, qui est Maxime Aubert, a publié récemment dans Nature, il y a quelques semaines, une découverte avec une main négative à 67 000 ans. Donc évidemment, on est très très loin des 50 000, mais bon, c'est une main négative, alors c'est pas tout à fait exactement la même chose. Ceci dit, on peut quasiment dire que dès que la figuration apparaît de façon comme motif répété, eh bien, il y a des figurations non seulement anthropomorphes, mais plutôt hybrides et théranthropiques. Et ça, ce qu'on trouve en Indonésie, donc sur l'île de Sulawesi, à 50 000 ans et quelques, eh bien, on le trouve à peu près l'équivalent en Europe, puisque les plus anciennes représentations en Europe, alors c'est présent dans le Jura Schwabalmand et on a une statuette en ivoire de mammouth de 40 000 ans, un homme lion. Donc ça c'est vraiment tout à fait étrange, ça veut dire que dès que la figuration apparaît, eh bien on a des représentations de type théranthropique.
Avec l'importance ici de l'Indonésie dans notre représentation de l'histoire même, de l'évolution de ce que peut être l'humain, direction l'Indonésie avec Maxime Aubert.
C'est intéressant parce que ça montre que les hommes n'étaient pas seulement capables de réaliser des mains négatives, de l'art figuratif ou des scènes narratives, mais qu'ils peignaient aussi des choses qui n'existent pas. Ils représentaient des fictions. Et ça, c'est le début d'une pensée de type religieux, de la mythologie, de la religion, etc. Et tout ça est présent ici dans un art rupestre très très ancien.
C'est la première fois qu'on a découvert une scène narrative, un récit visuel dans lequel l'artiste a voulu raconter une action en positionnant les personnages les uns par rapport aux autres. Une immense partie de la culture humaine consiste à raconter des histoires au sujet de ces créatures surnaturelles qui n'existent pas dans la réalité.
Deux archéologues, Maxime Aubert, Adam Brom ici, qui s'exprimait dans un documentaire sous la Wesi, L'île des premières images, un documentaire de Pascal Globo et Denis Van Varebeke. C'est un documentaire récent, 2025, puisque vous l'avez dit, Philippe Grosso, tout cela est très récent. Et d'ailleurs, la définition même géographique de la naissance de l'expression a changé ces dernières années. Longtemps, c'était en Europe, mais il y avait sans doute une volonté de primauté. Puis il y avait la recherche qui faisait qu'on cherchait là où c'était pas loin. Et maintenant, tout a basculé, le regard se porte vers l'Indonésie. Mais vous montrez bien que le mouvement est parallèle dans cette grande lutte de qui est le premier. C'est pas tellement ça l'intérêt. C'est surtout, il y a un mouvement parallèle dans des contextes qui sont similaires de chasseurs-cueilleurs.
Ce sont effectivement des populations de chasseurs-cueilleurs semi-nomades, dans les deux cas. Et en fait, ce sont des mouvements migratoires qui viennent fondamentalement à partir à peu près de 100 000 ans du Proche-Orient, auparavant d'Afrique. Il y a une première vague dont on sait qu'elle arrive à peu près vers 65 000 ans, au plus tard d'ailleurs, en Australie. Et donc ça correspond aux dates que Maxime Aubert a récemment découvertes. Et puis une seconde vague migratoire qui, à partir de ce Proche-Orient, file plutôt vers l'ouest. Et à ce moment-là, va arriver dans ce cul-de-sac continental qu'est l'Europe, parce que bon, plus à l'ouest, eh bien on coule. Et donc, une fois qu'ils sont installés, Et ils arrivent probablement autour du 50e millénaire quand même. Hein. Mais une fois qu'ils sont bien installés, on a au moins une première trace à 40 000 ans. Et donc, où il y a des mythes communs, où il y a des pensées communes d'une façon étrange, mais qui ne sont pas intentionnellement explicites. Enfin, ce n'est pas de transmission, évidemment, d'un continent à un autre. Hein. Ce n'est pas comme ça que ça se joue.
Oui, parce que là, on est autour de 70 000 ans avant le présent. J'arrondis un petit peu, juste pour se donner une idée.
Vous êtes généreux, là.
Oui, je suis généreux. Non, mais voilà, on pourrait être à moi. Mais Lascaux, c'est 22 000 ans. C'est-à-dire que Lascaux est beaucoup, beaucoup plus proche de nous que les gens de Lascaux pouvaient l'être de ces artistes, je l'utilise ainsi, d'Indonésie.
Absolument, absolument. Et d'abord, vous avez tout à fait raison de dire des artistes. Évidemment, pas de projection contemporaine, c'est pas le problème, mais ils sélectionnent leurs pigments, ils les broient, ils les mélangent, ils créent des matériaux pour les projeter. Bah, c'est ce qu'ont fait des artistes pendant des siècles et des siècles après. Donc, je vois aucune raison de leur soustraire ce beau qualificatif. Et ce qui est tout à fait fascinant, c'est que c'est la représentation d'une pensée mythique. Voilà, ça c'est tout à fait clair. Il y a une mythologie qui s'exprime. Pour notre plus grand malheur, on en a un peu perdu le code. Donc dire ce qu'elle signifie, voilà ce que nous ne savons pas faire. Mais nous pouvons dire beaucoup d'autres choses malgré tout sur ce type de représentation.
Ah oui, Philippe Grosot, vous faites preuve de beaucoup de modestie. C'est la modestie du chercheur face au manque d'informations, ne pas surinterpréter ce qui est découvert. Et ce qui nous intéresse dans le cours de l'histoire, ce sont les théranthropes. Donc, en Indonésie, sur l'île de Sulawesi, il y en a de très anciens. À quoi ressemble-t-il ? Quels animaux sont associés ?
Alors, dans la scène dont parlait Maxime Aubert, j'encourage les auditeurs à aller voir ce magnifique film de Pascal Gobelot, qui est vraiment tout à fait remarquable, qu'il a d'ailleurs sorti au moment où Maxime Aubert a publié dans Nature le fait. Hein, ils sont bien entendus sur ne pas anticiper la découverte. Et alors, c'est une partie de l'île qui est au sud de au sud-ouest de Sulawesi, et où dans cette grotte, on a une représentation d'un anoa. Un anoa, c'est une sorte de buffle nain, une espèce vraiment locale. Et devant cet anoa, on a 8 petites figurines qui, chacune, ne fait pas plus que la taille seule du museau ou de la tête de l'anoa. Donc, elles sont vraiment très petites. Et quand on les regarde bien, très attentivement, en fait, ce sont des bipèdes. Donc, l'humanité est assurée. Et ce qui change, c'est que chacun des 8 a une tête animale. Donc, il y a une tête d'oiseau, il y a une tête avec des cornes, puis des têtes qui ne sont pas toujours bien dessinées. Ça, c'est vraiment une grande caractéristique de l'art du paléolithique récent. C'est-à-dire qu'en fait, autant les artistes du paléolithique savent intentionnellement très très bien dessiner, reproduire des figures animales, c'est pas un art réaliste, mais c'est toujours un art naturaliste. Donc ça, c'est très différent. C'est-à-dire qu'on peut très parfaitement identifier l'animal qui est montré. Et de façon comme une grande constante, à chaque fois qu'il figure quelque chose qui se rapproche à de l'humain, c'est toujours flouté, c'est toujours mis à distance, c'est toujours très très peu identifiable. Et là, avec les théranthropes, c'est vraiment ce qu'on a. C'est des êtres hybrides dont l'hybridité se marque aussi par le fait que l'image est très peu identifiable. Quand on a un bec qui ressemble à un oiseau, on dit que c'est un oiseau. Maintenant, les oiseaux comme ça, dans la nature, il n'y en a pas. Vous voyez, donc c'est une déformation qui montre autre chose qu'une simple humanité.
Ça va au-delà de l'humanité. Il n'est pas question ici de parler de divinité. J'évoquais ici les limites de l'analyse et de la surinterprétation. Vous restez, vous, Philippe Grosot, très factuel quand vous regardez l'image. Après, il y a la pensée qui vient s'ajouter dessus. Mais pas de divinité.
Non, je ne le dirais pas, parce qu'une divinité, c'est difficile à penser indépendamment d'une religiosité. Et là, on n'a vraiment aucun critère archéologique. Et quand on travaille, comme moi, même si je ne suis pas archéologue, mais seulement philosophe, quand on travaille sur ces objets-là, je pense qu'il faut être vraiment descriptif le plus possible. Sinon, on n'est pas tellement sérieux, en fait. On est très vite pas crédible auprès des archéologues. Et ça m'importe beaucoup.
Hélène Bouillon, c'est l'énorme différence qu'il peut y avoir avec vos théranthropes, c'est-à-dire ceux de l'Égypte antique parce qu'ils sont associés à des textes, à des contextes tout autres. Et on ne peut pas comparer ces mi-hommes, mi-animaux, mi-hommes, mi-bêtes de la préhistoire à ceux de l'Égypte antique.
Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut dire aussi que au Proche-Orient ancien, il existe une autre manière de représenter des hybrides, parce qu'au Proche-Orient ancien, on se rend compte qu'à partir du 4e millénaire, au moment de l'invention des villes, de l'État, etc., on a de véritables divinités. Vous avez raison de souligner que faut être très prudent. Une véritable divinité, comme ça a été expliqué par mes prédécesseurs, c'est une entité pour laquelle il y a un culte. Donc il y a un lieu de culte, il y a des objets cultuels qui peuvent y être associés. Et au Proche-Orient ancien, en Mésopotamie notamment, les dieux, la plupart du temps, sont vraiment anthropomorphes. Donc, les entités hybrides, il peut y en avoir. Il y a des hommes scorpions, des hommes oiseaux, des hommes qu'on pourrait appeler sirènes, des hommes poissons. Ce sont des entités à part. On ne sait pas très bien comment les définir parce qu'on n'a pas de mots pour le Proche-Orient pour les définir. Ils ne sont pas définis en tant que tels, mais ils font partie du monde, comme vous disiez, en fait, sauvage et du monde des marges. Et la plupart du temps, ils gardent ces mondes des marges.
On peut être en Mésopotamie, dans cet univers-là, c'est ça, hein ?
Mésopotamie, Iran ancien, Anatolie ancienne, etc.
Pas de surinterprétation. Et puis, avec ici Philippe Gaudeau, la volonté d'identifier un peu déjà ce que sont les Terranthropes, où ont-ils créé. On a, c'est ce que nous disions, un univers qui s'étend au-delà, bien sûr, de l'Indonésie et qui nous conduit là où... Au paléolithique, des humains ont pu laisser des traces sur les murs, alors, sans doute à l'extérieur aussi peut-être, on ne sait pas, mais tout a pu être effacé. Mais en tout cas, dans les grottes, on en a conservé. Et en Europe, et en France, c'est le cas aussi.
Oui, on en a conservé, et en même temps, c'est ce qui est tout à fait passionnant, c'est qu'on n'en a pas beaucoup. On n'en a pas beaucoup, hein. C'est-à-dire, Jean-Luc Lequellec, est un très bon préhistorien archéologue, avait pu estimer que dans l'ensemble des grottes de l'espace franco-cantabrique, on avait une vingtaine de Terranthropes. Alors, je pense qu'on a plutôt le double. Mais en fait, si on ramène ça au pourcentage des figurations, on est à 0,50% de toutes les figurations qu'on a. C'est-à-dire, c'est presque rien. Et c'est suffisamment important pour qu'on soit dans l'obligation d'en prendre acte, d'autant que cette petite quarantaine de figurations, en fait, elles sont disséminées dans chacune des grottes très importantes de l'espace franco-cantabrique. Il n'y a pas une grotte importante qui n'a pas un Terranthrope, par exemple, ou quasiment pas.
Dans toutes nos grottes de référence que nous pouvons avoir en tête, il y a des Terranthropes. Alors là, bien sûr, on pourrait les citer les unes après les autres, mais moi je laisse la parole à celui que vous venez d'évoquer, l'anthropologue Jean-Loïc Lequellec.
On a le fameux dit sorcier, qui est un être hybride, qui a un visage de strigidé, un visage de cette espèce de le harfang des neiges, hein, cette espèce de gros hibou des neiges. Il a donc son visage et ce visage-là de rapace, donc. Il a des grands bois de renne, il a des bras qui se terminent par des griffes de prédateurs, il a une queue qu'on a identifiée comme étant une queue de chien. Il a un sexe qu'on a identifié comme étant un sexe de félin. Enfin, c'est un être composite qui correspond à rien de réel, mais qui est parfaitement bien dessiné. À la limite, on pourrait le reconnaître si on le voyait dans la nature. C'est vraiment à la fois réaliste, naturaliste, puisque chaque détail est parfaitement bien observé et en même temps tout à fait fabuleux.
Jean-Loïc Lequellec sur France Culture en 1998, il évoque la grotte des trois frères. Ça se trouve dans l'Ariège avec. Et il le dit bien. Cet être dit le sorcier. Il ne dit pas que c'est le sorcier, dit le sorcier. Parce que Philippe Roseau, ici, se joue, là encore, le danger de la projection. Cet être qui ressemble, on va dire, à un cerf sur le haut et à un humain sur le bas, plus ou moins. Non, ce n'est pas un sorcier.
Oui, ce n'est pas un sorcier. Et c'est très important de le remarquer parce que, en fait... Non, c'est pas que seulement ça met en cause une possible interprétation religieuse, c'est que ça met en cause beaucoup plus que ça. Quand on parle des sorciers, c'est vraiment une dénomination très classique chez les préhistoriens pour décrire les Terranthropes du paléolithique récent. En fait, on a des représentations de type ou chamanique ou totémiste. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on imagine que comme des populations subactuelles qui ont des pratiques chamaniques, on a un chaman, c'est-à-dire un homme comme vous et moi, et qui se revêt de peau de bête, d'un masque animal, etc. Donc, en fait, c'est pas un théranthrope. Il est dans une transe qu'il projette vers la théranthropie, mais c'est pas un théranthrope, il se transforme pas. Et donc, ça, c'est vraiment une chose importante, parce que autant, par exemple, quand on parle d'Égypte antique, il nous vient pas à l'esprit de dire que on a des humains qui se déguisent en divinité théranthropique. Autant, là, c'est vraiment une tentation assez grande chez les préhistoriens de projeter cette réalité-là sur ces figures-là, et comme si on ne croyait pas à la possibilité que ces individus du paléolithique récent aient pu s'approprier des représentations théranthropiques. Ça m'étonne toujours, et c'est vraiment c'est assez fréquent, en fait, la tentation est assez grande. Et à chaque fois qu'on voit les dénominations sorciers, on peut être sûr que c'est quelqu'un qui pense qu'un humain se déguise en théranthrope.
Et là, nous touchons au cœur de la pertinence de cette réflexion mi-homme, mi-bête, Philippe Grosso, c'est comment se définit l'humain, et qu'aujourd'hui, c'est tellement clair dans notre tête, la distinction entre l'humain et l'animal. On nous l'a tellement appris que nous avons du mal à imaginer qu'il existe quelque chose d'autre. Sauf que là, nous sommes à un autre moment de l'histoire de l'humanité, nous sommes au paléolithique. Et au paléolithique, ces définitions-là n'existent pas.
Ça me semble effectivement difficile de dire qu'elles existent. Alors, pour l'expliquer, il faudrait que je fasse un tout petit détour, si vous me permettez, Xavier Mauduit. En fait, l'idée qui est la mienne, c'est de se dire, si on étudie l'ensemble des représentations du paléolithique, on voit très très bien que l'immense majorité, c'est-à-dire à plus de 90%, c'est quelque chose comme un bestiaire. Très sélectif, mais un bestiaire. Donc très peu de place pour l'humanité, et quand l'humanité est figurée, elle est figurée de façon très estompée, très indistincte, comme j'ai pu le préciser préalablement. À partir du processus de néolithisation, c'est-à-dire à partir de 9000 avant notre ère, et un peu plus tardivement, par exemple, Sahara central ou ailleurs encore, sur la côte du Levant espagnol, c'est-à-dire entre le 7e et le 5e millénaire, on voit réapparaître des figurations très très nombreuses, et là, grand changement, toutes ces figurations sont vraiment anthropocentrées en quelque sorte. C'est-à-dire que ce qu'on voit de façon dominante, c'est pas seulement l'humain, c'est l'activité humaine autour de laquelle la présence animale se distribue. Et ça, pour moi, c'était un élément tout à fait important à comprendre, ou à croire comprendre, du moins, parce que c'est pas du tout quelque chose qui est présent au paléolithique, et ça veut dire que on ne peut pas interpréter les théranthropes du paléolithique comme on interprète les théranthropes beaucoup, beaucoup plus nombreux d'ailleurs, issus du processus de néolithisation. Parce qu'à partir du processus de néolithisation, c'est la question de l'humain et de ses origines qui est vraiment présente. Elle est même tellement présente qu'elle devient tout à fait dominante. On n'a rien d'équivalent avant, d'où mon idée que avant, en fait, les représentations des théranthropes du paléolithique récent, eh bien, sont dans une pensée de ce que j'appellerais volontiers la fluidité entre les espèces, c'est-à-dire l'indistinction, l'instabilité totale. Donc, c'est pour nous très complexe à comprendre, parce qu'on n'est plus du tout dans cet esprit-là. Hein. On est persuadé, et de fait, on est devenu, en quelque sorte, le centre de toutes nos préoccupations, le centre de tout le vivant. On organise tout le vivant autour de nous. Ce n'est pas du tout une idée qu'on trouve lors du paléolithique récent. D'où la nécessité de changer l'interprétation des théranthropes. Ils ne peuvent pas être compris comme de possibles ancêtres.
Au paléolithique, le temps des chasseurs-cueilleurs, et je caricature la chose, peu de représentations d'êtres humains, énormément d'animaux et des théranthropes. Au néolithique, l'agriculture, l'élevage, on se sédentarise et on pense beaucoup à nous-mêmes, et depuis ça n'a pas changé, bien sûr. Eh bien, dès lors, beaucoup plus de représentations d'êtres humains, des représentations d'animaux encore, et de théranthropes. Donc ils ont perdu leur signification originelle. Il y a une évolution ici sur l'idée du théranthrope qui n'est plus peut-être cette autre espèce au sens où quelque chose qui est fluide entre l'humain et l'animal.
Oui, c'est ça, c'est exactement ce que je pensais. C'est-à-dire, il me semble qu'au paléolithique récent, on est plutôt dans une pensée où le théranthrope montre la fluidité entre les espèces. Et d'ailleurs, ils sont très peu nombreux et on doit les mettre en rapport avec les êtres qui ne sont pas des théranthropes, mais qui sont des hybrides. Hein, par exemple, la très célèbre, ce qu'on appelle licorne depuis l'abbé Breuil de Lascaux, qui ne ressemble pas tout à fait non plus à ce qu'on appelle une licorne, mais bon, elle a une corne, cette bête, qui est aussi un mix de différents animaux. C'est très symptomatique de la fluidité des espèces. Alors qu'à partir du processus de néolithisation, eh bien, par exemple, on voit très très bien comment ces êtres théranthropiques, par exemple au Sahara central, autour du 5e millénaire, ils sont habillés. Ils ont des armes, des vêtements, etc., des coiffes, rien de tel évidemment avec les théranthropes du paléolithique. Et je pense que ils ont un rapport avec ce que j'appelle une logique de l'ancestralité, c'est-à-dire à partir du moment où l'humain devient le centre de ses propres préoccupations, il est tout à fait compréhensible qu'il cherche à comprendre d'où il vient. Et je pense que la question du théranthrope répond à cette demande-là. Or, comme c'est pas pour la question d'où est-ce que je viens puisse être posée, il faut quand même que je m'intéresse fondamentalement à moi ou que la représentation que j'ai de moi soit centrale. Si c'est pas une représentation qui est attestée par l'archéologie et la représentation du paléolithique récent, on n'a aucune raison de penser que ça relève d'une logique de l'ancestralité.
Une autre humanité que la nôtre. Je voudrais, Philippe Grosot, votre réaction à ce que l'on va entendre. C'est Georges Bataille, écrivain, philosophe.
Il est tout à fait frappant, en effet, à mon avis, que justement, dans les rares représentations d'hommes que l'on trouve, l'animalité déteigne. C'est un petit peu comme si la figure humaine n'avait pas pu être représentée directement, sans hésitation. Un homme, oui, mais on lui donnait une tête d'animal pour que cela passe. Il y avait en somme une sorte de tabou de la représentation humaine, autant du moins qu'on peut le croire, étant donné le peu de renseignements, le peu de documents positifs que nous avons sur cette période. Mais il nous reste tout de même cette opposition entre l'homme et l'animal qui est ce à quoi nous pouvons nous raccrocher pour tenter d'interpréter ces peintures. En effet, ce qui me paraît tout à fait frappant, c'est que cela suppose une toute autre idée de l'humanité que la nôtre. En Grèce ou en Égypte, les divinités animales ont précédé les divinités humaines. Il y avait un pas à franchir entre l'homme et la divinité qu'il n'y avait pas à franchir entre l'animal et la divinité. L'animal était quelque chose qui a donné primitivement aux hommes le sens du divin.
En 1955, c'est-à-dire seulement 15 ans après la découverte de la grotte de Lascaux, Georges Bataille évoquait ici ces liens complexes entre l'humain, l'animal. Philippe Grosot, c'est passionnant ce que dit Bataille ici, cette réflexion déjà sur une autre humanité.
Oui, c'est un texte important que celui de Bataille sur Lascaux, la naissance de l'art. Il a beaucoup marqué, et peut-être pas assez, parce que finalement, je constate avec un peu de déception que les philosophes s'en sont assez peu ressaisis. Ça mériterait davantage, probablement. J'aurais juste quelques réserves, malgré tout, dans ce que dit Georges Bataille ici. Alors, il parle à un moment d'opposition entre homme-animal, y compris pour penser le paléolithique, et puis surtout, il emploie le mot de tabou de représentation. Alors là, franchement, j'en sais rien. Et même, je dirais que pour présupposer qu'il y ait un tabou de la représentation, il faut penser qu'il y a vraiment un interdit social, culturel ou culturel des humains. Et j'aurais plutôt tendance à penser l'inverse. C'est-à-dire que si on est dans une indistinction des espèces, la question d'un possible tabou ne se pose pas encore. Je pense qu'on est en amont même de ces difficultés-là.
Hélène Bouillon, Georges Bataille évoque aussi l'arrivée de la représentation, de la religion, en passant par l'animal, parce que c'est trop dur de passer par l'humain directement.
Oui, et c'est là. Alors, ce texte est très beau. J'aurais moi aussi une petite nuance à faire, c'est que, et ça m'intéresse beaucoup, quand on veut parler des grands anciens, on parle de la Grèce, bien sûr, on parle de l'Égypte, on oublie toujours le Proche-Orient, on oublie les Mésopotamiens. Or, bah, comme on l'a dit un peu plus tôt, au contraire, hein, en Mésopotamie, quand les divinités sont représentées pour la première fois au 4e millénaire avant Jésus-Christ, elles sont anthropomorphes. Et au contraire, comme vous l'avez bien montré, à cette époque-là, donc là on est vraiment à la fin du processus de néolithisation, il y a eu une séparation, en fait, entre l'humain et l'animal. Et l'animal reste bien évidemment important. Il peut incarner des forces ou des entités divines, mais il va toujours, cet animal, être utilisé dans les représentations pour représenter des forces du chaos ou des forces, en tout cas, que l'humain doit essayer de juguler. Et on a cette représentation, par exemple, d'un thérianthrope. Alors moi, je continue à dire thérianthrope, c'est parce que j'ai appris comme ça. Au moment où les humains ont inventé les seaux, qui sont au départ des seaux en forme de cachet.
Oui, c'est pas les seaux pour porter de l'eau. Hein.
Et c'est pas le seau pour porter de l'eau. Et ce sont pas encore les seaux en forme de cylindre qui vont être inventés 2000 ans plus tard. Au 6e millénaire avant Jésus-Christ, donc on invente quelque chose qui va être très important parce que ça va être le support, justement, de diffusion de tout un tas d'iconographies. Et notamment, au 5e millénaire, une iconographie qu'on appelle le maître des animaux. Ce maître des animaux est représenté, alors on dit maître des animaux, la silhouette est un peu indistincte, ça pourrait être une maîtresse des animaux, d'ailleurs ça l'est devenu par la suite. Donc c'est une silhouette anthropomorphe, mais la plupart du temps avec des griffes et quelquefois une tête animale, qui est représentée de face en train de juguler d'autres animaux, des serpents, des ibex, etc. Et là, je vous rejoins, on a essayé d'interpréter ces images. Malheureusement, on n'a pas les textes qui vont avec. On ne sait absolument pas ce qu'ils représentent. Comme peut-être des sorciers, des chamans. Bon, en vrai, rien ne nous dit que ce sont des sorciers. Ça se trouve, c'est une entité, voilà, en tant que telle.
Oui, parce que il y a aussi cela, il y a le fonctionnement du cerveau humain qui a besoin de donner des explications à tout, de se rassurer. Et avec les théranthropes, on le sent ô combien c'est difficile de se plonger et presque impossible dans l'imaginaire de ces gens des temps passés. Dès lors, nous projetons nos propres analyses. Mais Philippe Grosot, ce que vous faites, vous, c'est avec, je le disais, toute la prudence, apporter des éléments d'analyse qui demeurent dans le cadre qui nous évite la surinterprétation. Et c'est possible. Alors ça, c'est la philosophie aussi qui le permet, parce que on sent bien qu'elle porte, ces animaux-là, ces hommes-là, ces théranthropes, des questions qui sont celles d'aujourd'hui encore. Les questions de base, j'ai envie de dire, enfin, qui sommes-nous ?
Oui, alors c'est la philosophie, puis c'est aussi l'attention un peu prudente à tous mes collègues préhistoriens et archéologues, parce que quand je me suis passionné depuis plus d'une dizaine d'années maintenant pour ces questions, disons, préhistoriques, je me suis aperçu que, légitimement d'ailleurs, les préhistoriens, comme chacun d'entre nous, ils veulent comprendre, et donc en voulant comprendre, ils interprètent, et en voulant interpréter, en fait, ils proposent des interprétations, c'est-à-dire... On a affaire à un art, l'art paléolithique, qui est évidemment reconnu très légitimement maintenant comme d'ordre massivement symbolique, disons, il signifie quelque chose, et tout le monde se demande ce qu'il signifie, c'est-à-dire de quoi le symbole est symbole, en quelque sorte. Hein. C'est ça la difficulté. Et quand on est dans cette logique-là, dans cette logique herméneutique-là, eh bien évidemment, chaque proposition herméneutique chasse la précédente. Donc on a un art propitiatoire de la chasse, et puis on a un art très différent, on propose un art chamanique, un art totémique, et beaucoup d'autres interprétations ont surgi d'ailleurs encore depuis. Ma démarche était différente, elle consistait à dire... Je décris ce que je vois dans la période du paléolithique récent, je décris ce que je vois à partir du processus de nullisation, et je fais une étude comparée. Et la comparaison est signifiante, en fait. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on compare de cette façon-là, on voit très bien le surgissement de la position dominante de l'humain. Et c'est ça qui restructure la définition. Ce que disait Hélène Bouillon à l'instant aussi, c'est-à-dire, avec quoi je suis en parfait accord, c'est vraiment la prédominance de l'humain qui change le regard. Et donc, pour voir les œuvres du paléolithique, il faut se soustraire à cette question-là, ce qui est très difficile pour nous. Mais on peut le faire si on décrit et si on renonce à interpréter. Alors, par exemple, parler de sorcier pour décrire ces théranthropes, ben ça c'est une interprétation qui nous conduit vers l'idée que ce sont des hommes masqués.
Oui, voilà, c'est ça. Et d'un seul coup, l'explication est très simple. Mais vous l'avez dit, Philippe Grosot, nous n'imaginons pas dire cela des dieux de l'Égypte antique. Parce que dès lors, nous avons un autre fonctionnement et nous sommes baignés d'une culture qui fait que pour l'Égypte, cela est cohérent. Et Nous pensons tout de suite à la divinité, mais Hélène Bouillon, au moment d'évoquer l'Égypte, là aussi nous sommes sur des temps très longs, parce que l'Égypte, c'est très très long. Et dans l'évolution même de la représentation de ces divinités, elles paraissent figées en fait. Quand nous allons dans les musées, nous avons l'impression qu'elles sont figées, que ça a toujours été comme ça. Or là aussi, on a toute une histoire qui se raconte et qui nous conduit sans doute en Mésopotamie.
Oui, alors, effectivement, il y a des manières très différentes de représenter les dieux en Mésopotamie et en Égypte. En Égypte, comme je le disais au début, les premières divinités représentées, on sait que ce sont des divinités, elles sont sur des pavois, il n'y a aucun problème avec ça. Ou elles sont sur des façades de palais, et elles représentent le dieu Horus, par exemple, et elles sont totalement animales. Il y a eu une évolution, puisque effectivement, à partir de l'époque des grandes pyramides, on va représenter les divinités de manière théranthropique, avec de temps en temps un homme ou une femme, enfin la représentation d'un homme ou une femme avec une tête animale. Ou alors, et ça quand même, c'est même avant l'Ancien Empire, on a quand même une divinité théranthropique, qui apparaît dès la fin de l'époque prédynastique, et c'est une divinité qu'ensuite on va assimiler à Hathor, une tête de femme avec des oreilles de vache. Là, on est sur une divinité qui représente la fertilité, en fait. Hein. Très souvent, on dit qu'Hathor, c'est la déesse de l'amour. Ça n'est pas la déesse de l'amour, c'est la déesse de la fertilité, tout simplement. En Mésopotamie, il y a une autre manière de représenter la divinité. La divinité est anthropomorphe, mais parfois, selon les périodes, elle peut aussi être représentée par son animal, l'animal qui peut la représenter, son animal attribut, comme on dit. Par exemple, le dieu Marduk, qui devient le dieu de Babylone, le dieu Marduk est représenté avec son animal attribut, qui est un dragon, un mouchrouchou.
Voilà, et comme ça, on a de toute façon, pour les personnes qui regardent, une identification très rapide et très efficace. Hélène Bouillon, ce serait tellement chouette de pouvoir leur demander, en fait, mais qui ils sont. Ben, vous savez, il y a quelque temps, Paco Rabanne, le créateur, le couturier, faisait un défilé en Égypte, justement, et au moment du défilé, mais juste après, il s'est passé quelque chose au pied du Sphinx.
Le défilé s'est passé devant le Sphinx. Il y a eu des interférences du temps invraisemblables. Il s'est passé par moments des phénomènes étranges. Je voyais les gens, il y avait des ondes qui passaient et des décollages de temps invraisemblables. Après le défilé, je remontais, pendant qu'on emballait les vêtements, je remontais le long du Sphinx, sur le côté gauche. Il y a un petit raidillon là, sur le côté du Sphinx. C'était minuit, la pleine lune. Et brusquement, j'entends un appel, je me retourne. Et sur le fond du ciel éclairé par la lune, je vois la masse noire du Sphinx et sur le Sphinx, l'image holographique telle que le Sphinx était il y a 3000 ans, c'est-à-dire lumineux, avec le visage peint en rouge, la coiffe blanche et bleue et tout le corps peint en rouge. Le Sphinx tourne sa tête vers moi et m'explique pourquoi il a été créé, comment l'homme, animal, les quatre pieds du Sphinx, peut devenir un humain et par l'œuvre du soleil et l'œuvre alchimique, atteindre la divinité, c'est pour ça qu'il regardait le soleil levant. Il m'explique tout. Et à un moment, il me dit, regarde, il soulève sa patte droite, et je vois un escalier, il me dit, descends. Je descends par la pensée, bien sûr. Hein. J'étais là, foudroyé, comme ça, et puis il me dit, tout ceci sera découvert lorsqu'on s'attaquera à la réflexion de mon visage. Et l'image disparaît.
Paco Rabanne, en 1994. Ah ben, Philippe Grosso, ça, hein, si on pouvait avoir une petite discussion comme ça avec un théranthrope, je sais pas, sur l'île de Sulawesi.
Je suis demandeur, mais c'est pas sûr qu'il me l'accorde.
J'adore ce témoignage de Paco Rabanne. En fait, Paco Rabanne, là, il a vécu des expériences qui ont été racontées par des pharaons du Nouvel Empire. Notamment Toutmosis IV, hein, c'est le plus connu parce qu'il a laissé en témoignage une stèle qui est encore au pied du Sphinx entre ses pattes. C'est très intéressant l'histoire du Sphinx parce que au départ, en fait, on ne sait absolument pas ce qu'il représente. Hein. On n'a pas de texte de l'époque de sa construction, sans doute sous le roi Khéphren. et on interprète par les textes qu'on a sur le Sphinx après coup. Et au Nouvel Empire, il est devenu une entité divine en tant que telle, avec un nom qui n'est un nom que pour lui, que pour le Sphinx de Gizeh, le grand Sphinx de Gizeh devant les pyramides. Et c'est Horus de l'Horus dans l'horizon, Hor et Mahret, ce qui est devenu Armakis pour les Grecs. C'est donc une divinité qui est vraiment une divinité locale de la ville de Memphis, dans laquelle les princes du Nouvel Empire font leur formation, notamment leur formation en tant que guerriers. Ils partent à la chasse dans les déserts à côté. Et très souvent, ils ont comme ça des rencontres mystiques avec le Sphinx. C'est notamment Thoutmôsis IV qui explique qu'il s'est endormi au pied du Sphinx, et que le Sphinx lui a demandé justement de le restaurer, ce qu'il a fait. Et en échange de cette restauration, le Sphinx accordait à Thoutmôsis IV un règne. Voilà, le fait de régner en tant que pharaon.
Oui, parce que parmi les théranthropes les plus célèbres, le Sphinx a toute sa place. Et ici, bien sûr, avec Paco Rabanne, il y a toujours un regard particulier, mais allons savoir, parce que le Sphinx était sans doute coloré, comme il le raconte. C'est-à-dire qu'il y a une vraie connaissance, et il avait peut-être lu ces textes de l'Antiquité aussi. Il y a une grande connaissance de toutes ces choses-là. Mais la symbolique du Sphinx, elle aussi évolue. Je vous écoute, Hélène Bouillon. C'est pas du tout le même, ce Sphinx des origines. Et là, nous sommes plusieurs millénaires avant notre ère, au Sphinx tel qu'il évolue par la suite et tel qu'il change même de représentation.
Tout à fait. Le Sphinx, on se croirait dans Astérix et Cléopâtre. Le Sphinx, au troisième millénaire, quand il est représenté pour la première fois, il est sans doute représenté aux alentours des règnes après Khéops, soit de son successeur direct d'Idoufri, soit du successeur après, Khéphren. Ces sphinx, dont le plus ancien, c'est le grand sphinx de Gizeh, ne représentent pas une entité divine à la base, représentent le roi. Le roi, qui est lui-même un aspect divin, bien évidemment. Il a une tête de roi, ce sphinx, puisqu'il a la coiffe royale, et il a un corps de lion. Et le corps de lion, le roi peut être représenté sous une forme léonine pour montrer sa force et sa puissance. Là, en l'occurrence, ce corps de lion est couché et faisant une vigilance. C'est sans doute, et là encore une fois j'interprète, parce que pour le Sphinx de Gizeh, on n'a pas de texte au moment de sa sculpture, il est sculpté à même le roc de Gizeh, c'est sans doute le gardien des pyramides, le gardien de la nécropole. Par la suite, on l'a dit, en Égypte, ça va devenir un dieu. Et les sphinx, puisqu'on représente beaucoup d'autres sphinx, et notamment sur les allées des temples, etc., sont des entités gardiennes. Ce sphinx a eu beaucoup de succès, et notamment à partir du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, il a eu beaucoup de succès dans les endroits qui étaient des voisins de l'Égypte, et notamment au Levant, où ce sont devenus des entités divines, qui pouvaient être des entités mâles ou femelles. Et les Levantins ont donné un aspect divin et peut-être dans le sens de représentation de l'ubiquité, lui ont donné des ailes. Un sphinx égyptien n'a pas d'ailes. Les sphinx levantins et ensuite les sphinx qui ont été représentés dans les régions égéennes sont des entités divines, ont des ailes et vont être utilisés pour devenir des gardiens de temples, des gardiens de trônes divins, mais aussi des gardiens de tombes. Et vont avoir une place dans le domaine funéraire aussi important qu'en Égypte ancienne. Ce qui va se passer, c'est que ce sphinx qui va devenir une entité divine à part entière, va être vraiment féminisé chez les Grecs. Le nom de Sphinx ou Sphinx, c'est un nom féminin. Donc en fait, on ne devrait pas dire un sphinx, mais parce que sphinx, c'est toujours féminin. D'ailleurs, les Grecs, quand ils ont été visités l'Égypte, ont parlé, pour les sphinx égyptiens, d'androsphinx. Eux savaient bien que sphinx, c'était féminin. Et ce sphinx va devenir une porteuse de secrets. Le secret de l'existence, sans doute.
Le secret de l'existence, et puis avec l'énigme, parce que nous voyons bien ici notre sphinx d'Égypte, ceux qui peuvent se trouver dans la Grèce, dans ce monde égéen. J'ai bien aimé aussi, c'est vrai, j'avais jamais pensé à ça, mais ça protège le trône, et on le voit, les sculptures, les accoudoirs, etc., bah oui, ce sont des sphinx, donc une déesse, un dieu, une entité qui est là, alors pour protéger, bien sûr, mais pour poser également des questions.
Vous ?
Moi, le sphinx. Tu n'es pas un rêveur, Édipe. Ce que tu veux, tu le veux, tu l'as voulu. Silence. Ici, j'ordonne. Approche. Avance. Puisque tes jambes te refusent leur aide, saute, sautille. Il est bon qu'un héros se rende un peu ridicule. Allons, va, sois tranquille. Il n'y a personne pour te regarder. C'est bien. Halt ! Et maintenant, je vais te donner un spectacle. Quel est l'animal qui marche sur quatre pattes le matin, sur deux pattes à midi, sur trois pattes le soir ? L'homme, parbleu, qui se traîne à quatre pattes lorsqu'il est petit, qui marche sur deux pattes lorsqu'il est grand, et qui, lorsqu'il est vieux, cède avec la troisième patte d'un bâton.
Le sphinx roule sur le socle.
Vainqueur !
En 1957, c'est Germaine Montero qui lit La machine infernale de Jean Cocteau. Elle lit tout, hein. Elle est sphinx, elle est Oedipe. Et c'est formidable, hein, parce que c'est Germaine Montero, bien sûr. C'est la rencontre d'Oedipe et du sphinx, vue par Jean Cocteau dans Mi-homme, mi-bête, Philippe Grosso. Vous avez un sous-titre, hein. Petite phénoménologie des théranthropes des paléolithiques aux Égyptiens. Donc tout ça, bien sûr, c'est cette continuité. D'ailleurs, j'apprécie moi beaucoup ce regard sur le temps long et de pas segmenter, parce que ici on sent de grandes continuités. Quelle place pour le sphinx dans votre regard à vous ?
Le sphinx, il est intéressant pour moi à plus d'un titre. D'abord, parce que c'est une représentation où la théranthropie se montre à partir de quadrupèdes. Et finalement, antérieurement, ce n'est pas fréquent. Par exemple, au paléolithique, il y a guère de représentations de théranthropes quadrupèdes. Il y en a possiblement une dans une grotte ornée du Magdalénien, qui est la grotte de Rouffignac, en Dordogne, qui d'ailleurs se visite. Et si vos auditeurs ne la connaissent pas, qu'ils y aillent. Enfin, ils ne verront pas cette représentation. Elle est hors circuit touristique, disons. Mais la grotte est magnifique. Et encore, c'est une représentation très discutable. C'est-à-dire, c'est un quadrupède manifeste qui a possiblement une tête anthropisée. Et le conservateur du lieu, Frédéric Plassard, est légitimement très très prudent sur cette interprétation. Mais à part celle-ci, il n'y en a pas vraiment pas beaucoup. Donc ça, le sphinx, c'est vraiment intéressant pour ça. C'est-à-dire, et je ne suis pas sûr que dans... Enfin, ça, c'est Hélène Bouillon qui sait beaucoup mieux que moi, mais si en Égypte ou en Mésopotamie, on a beaucoup de quadrupèdes qui servent de théranthropes, ça ne me paraît pas si fréquent, disons. Hein. Donc ça, c'est une première source d'intérêt. Et puis la seconde, évidemment, c'est que quand on voit bien avec le mythe qui a été à l'instant relaté, tout tourne autour de la question de l'humain. Enfin, c'est la question de l'humain qui est essentielle, c'est pas la question animale. Enfin, l'animal n'est jamais que le support à partir de laquelle la question de l'humain peut se poser. Voilà, donc on est passé à ce que j'appellerais volontiers une autre ontologie, un autre mode d'être au monde, quoi. Et ça, on n'est plus du tout paléolithique, là.
La réponse à l'énigme du sphinx, effectivement, bien sûr, c'est l'humain, c'est l'homme. Des théranthropes à quatre pattes, chez vous ?
Oui, alors il y a effectivement le sphinx qui représente donc le roi en tant que force puissante. En Mésopotamie, on a aussi des théranthropes sous la forme animale à tête humaine, et ce sont des gardiens, les gardiens notamment des montagnes d'où le soleil se lève chaque matin. Et qui sont représentés comme des hommes taureaux. On va retrouver ces hommes taureaux sous la forme de statuettes, sous la forme de sauts-cylindres, et vous en avez une représentation, des représentations absolument magnifiques au Louvre, dans le palais de Khorsabad, où ce sont les gardiens du palais de Khorsabad, le palais de Sargon II. Et donc ce sont des entités bénéfiques, ce sont des entités qui sont là pour protéger les seuils et pour repousser les forces maléfiques à l'extérieur. En Égypte, on a d'autres représentations qui sont des représentations d'hybrides, et les hybrides peuvent être des hybrides d'animaux avec des humains, et c'est toujours pour représenter une idée. En fait, en Égypte, l'hybridité, elle est vraiment conceptuelle. C'est une manière de représenter une réalité qu'on ne peut pas voir, mais qui existe. Par exemple, dans le monde de l'au-delà, que les Égyptiens appellent la Douat, et qui est un monde vraiment extrêmement effrayant, pour lesquels il faut tout un tas de traités quand on est mort pour s'en sortir là-dedans. On a des entités infernales, la plupart du temps sous la forme de serpents. Hein, le serpent, c'est vraiment l'entité infernale par excellence. Et pour représenter la manière dont ces serpents sont extrêmement agiles et se déplacent très rapidement, ben, on va leur mettre des pattes, mais des jambes humaines. Tout simplement parce que le fait de représenter deux jambes en mouvement, c'est le hiéroglyphe qui détermine tous les verbes de mouvement.
D'accord.
Donc ça n'est pas... En Égypte, il faut s'imaginer qu'au fur et à mesure que se développent les conventions égyptiennes, l'écriture et le dessin, c'est la même chose. Le fait de représenter deux jambes en mouvement, ça veut tout simplement dire le mouvement. Donc il y a vraiment, c'est moins de la symbolique que vraiment un jeu intellectuel, voilà, un jeu de mots en fait.
Le paléolithique, chasseur, cueilleur, et j'entends bien ici quelque chose de très fluide entre l'humain et l'animal, avec les théranthropes. Au néolithique, l'agriculture, l'élevage, des théranthropes toujours, mais une distinction entre l'humain et l'animal, ou en tout cas des tensions avec l'Égypte, la Mésopotamie. On voit bien ici qu'il y a des représentations animales à corps d'homme. Et en plus, vous l'avez dit, Hélène Bouillon, c'est plus pratique pour faire des dessins quand ils ont un truc à porter. Et nous arrivons enfin, nous sommes au deuxième siècle de notre ère, à la moquerie.
Hey, « Hé toi, la tête de chien, l'Égyptien, enveloppé de serviettes, qui es-tu, mon ami? Et comment, avec ton aboiement, as-tu la prétention d'être Dieu? Que veut ce taureau de Memphis, celui qui est tout moucheté? On l'adore, il rend des oracles, il a des prêtres. Je rougis de vous parler des ibis, des singes, des boucs, et de mille autres dieux encore plus ridicules, dont les Égyptiens ont inondé le ciel. » Et je m'étonne, ô Dieu, que vous puissiez endurer qu'on leur rende des honneurs égaux aux vôtres, s'ils ne sont pas plus grands. Il faut être initié à ces mystères, pour savoir que des dieux sont des dieux, et des cynocéphales, des cynocéphales.
Cynocéphale qui a la tête d'un chien, Raphaël Laloum, qui nous disait ici, Lucien de Saint-Mossat. Nous sommes donc au deuxième siècle, dans un monde gréco-romain. Hélène Bouillon, bah cette fois-ci on se moque de ces dieux égyptiens avec des têtes de bestioles.
Oui, Lucien de Saint-Mossat adore se moquer de toute façon, c'est un auteur qui a beaucoup d'humour. Je crois qu'il se moque aussi quand même, aussi des gens qui n'y comprennent rien. C'est-à-dire que là, il fait interpréter cette vision de « Oh, c'est Dieu à tête de chien par le dieu de la discorde, Momos, qui manifestement ne comprend rien à la pensée égyptienne. Et d'ailleurs, il va être repris dans cette œuvre. Je me souviens plus le titre, pardon. Zeus lui dit « Attention, on ne se moque pas de ces dieux-là. Ce sont véritablement des dieux, mais il faut avoir été initié. » Et ça, c'est vraiment la pensée grecque, puis la pensée des Romains. Les Égyptiens détenaient des secrets auxquels il faut être initié pour vraiment comprendre leur pensée.
C'est l'Assemblée des dieux, hein, Lucien de Saint-Mossat, avec mi-homme, mi-bête, Philippe Grosso. Vous apportez ici toute cette réflexion qui nous fait penser, et là aussi, vous allez me corriger s'il y a de la surinterprétation, avec cet éranthrope à l'apparition peut-être de la conscience de l'humain en tant que une espèce distincte des animaux, pourquoi pas aussi de la philosophie, de l'interrogation avec la réflexion sur d'où venons-nous, peut-être aussi de l'histoire tout simplement, des lignées. Est-ce que tout cela peut être en amorce avec nos téranthropes?
Oui et non, tout dépend comment on formule exactement le problème. C'est-à-dire, ce qui est intéressant ici, c'est que évidemment, je dirais qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, pardonnez les trivialités de l'expression, mais j'aurais tendance à inverser. C'est-à-dire, je dirais plutôt que c'est à partir du processus de néolithisation, se met en place, disons, des types de représentations dont l'humain devient le centre. Le centre vraiment fondamental, c'est celui à partir duquel l'ensemble des autres vivants s'organise. Et une fois que cela est en place, et ça prend des millénaires, en fait, les périodes dont on parle, ici, par exemple, avec l'Égypte antique ou la Grèce, on a toujours tort de dire que ça relève de l'Antiquité. On serait plus exact si on disait c'est la fin de l'âge des métaux, par exemple. Ça nous permettrait d'avoir de la longue durée derrière, ça serait beaucoup plus intéressant. Et quand on pense comme ça, on comprend qu'il a fallu, entre le processus de néolithisation et la fin de l'âge des métaux, 7000 ans. C'est pas rien, quand même, 7000 ans. On est censé être en 2026, par exemple. Donc ça donne un petit espace temporel supplémentaire. Et donc, je dirais que la philosophie, quand elle apparaît, à mon avis, elle apparaît en Grèce, à Athènes, au 5e siècle, c'est-à-dire à la fin du second âge du fer. Et c'est à ce moment-là que la question de la philosophie naît. Mais quand elle naît, en fait, il me semble qu'elle ne fait qu'entériner fondamentalement, ce que j'appellerais une ontologie, un mode d'être au monde, nommons-le comme on le souhaite, dans lequel la question de l'humain est depuis très longtemps fixée et dominante. Donc en fait, c'est pas du tout que les téranthropes nous apprennent quelque chose sur la conscience philosophique des humains, parce que quand les premiers téranthropes apparaissent, il n'y a pas du tout de philosophie, il n'y en aura pas avant très 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 longtemps. Enfin, c'est un phénomène récent, la philosophie, ça a 2000 ans, c'est tardif, comme j'aime à dire, très tardif même. Mais c'est plutôt que quand la philosophie apparaît, elle ne peut que se ressaisir d'un problème qui depuis longtemps a émergé. Et ce problème, qu'est-ce que c'est? C'est la question dominante de la singularité de l'humain dans l'ensemble des vivants. Et finalement, c'est cette interrogation-là que suggèrent les téranthropes. C'est-à-dire, les téranthropes, ils nous renvoient à des types d'humanité où l'humain n'est pas nécessairement le centre du vivant. Et ça, pour nous, c'est complètement impossible à concevoir. C'est pour ça que nous ne les entendons plus, nous ne les voyons plus, ces téranthropes. Nous avons beaucoup de mal à les interpréter.
Même s'ils sont toujours présents, et c'est pour ça que cette émission était importante. Et merci vivement à vous deux, Hélène Bouillon, Philippe Grosso, de votre parole, puisque les téranthropes sont omniprésent, qu'il s'agisse de loups-garous au cinéma, dans la littérature, on en trouve chez Harry Potter, chez Michael Jackson, on en a partout de ces téranthropes, mais déjà pour les comprendre, il faut saisir d'où ils viennent. Dès lors, il y a Mi-homme, mi-bête, Philippe Grosso, c'est paru aux éditions du Cerf. Merci vivement et Hélène Bouillon, une histoire des animaux fantastiques aux presses universitaires de France. Et Hélène, il y en a tant d'autres, qu'il s'agisse des 100 mythes de l'Égypte ancienne, mais on retrouve ça sur le site du cours de l'histoire franceculture.fr. Merci vivement à tous les deux. Prochain merci épisode.
Merci beaucoup.
Avec
beaucoup.
Des dragons, dites donc, une histoire tout feu tout flamme.
Alors, vous l'avez vu? C'est un gros dragon, un petit dragon?
On ne l'a pas vu, mon oncle.
De toute façon, il est même pas là, alors.
Et ça, c'est un phacochère. On dirait qu'il se rapproche. Ou alors il s'éloigne.
Heureusement que vous êtes là. Hein.
C'est difficile de jauger, on l'entend mais on le voit jamais.
Bah oui, mais ça c'est Kaamelott. Hein. C'est toujours un plaisir de l'entendre. Le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau et Anna Holbeck à la technique Mineta Diawara. Émission préparée par Jeanne Delecroix, Raphaël Laloum, Jeanne Copet, Sidonie Lebeau et Mayouen Guizou. Émission à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et en exclusivité sur l'appli Radio France.